Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Le dossier des retraites agite la France, mais aussi le Royaume-Uni et le Portugal, où l'âge de départ a encore reculé. Dans cette émission, nous serons aussi à Prague, sur les traces du père de l'art nouveau, Alphonse Mucha, et à Melbourne, avec la diaspora grecque. Bienvenue à toutes et à tous. Faut-il ramener l'âge de la retraite à 62 ans au lieu de 64 ? En France, le débat sur la réforme de 2023 continue à diviser la classe politique et les partenaires sociaux. Le Portugal, lui, a tranché, ce sera désormais 66 ans et 9 mois. Ce pays est le deuxième de l'Union européenne en termes de vieillissement. En 2022, la moitié de sa population avait plus de 46 ans. Et de plus en plus de Portugais continuent à travailler une fois qu'ils sont à la retraite. Si la moitié d'entre eux environ le font par intérêt, pour rester dans la vie active, pour les autres, c'est une nécessité financière. Reportage à Lisbonne de notre correspondante Marilyn Darcy.
La retraite au Portugal évolue en fonction de l'espérance de vie. Elle augmente, alors on travaille plus longtemps. Lourdes, 69 ans aujourd'hui, est partie il y a 4 ans à l'âge légal en vigueur en 2021.
C'est tard pour prendre la retraite. On pense profiter un peu de la vie, mais ça passe si vite et on n'a plus le temps pour rien. Moi, je me contente de prendre l'argent à la fin du mois, un peu plus de 400 euros seulement, car j'ai travaillé longtemps sans cotiser. Les patrons ne s'acquittaient pas des contributions dans ma jeunesse. On pense que c'est bon, car tant qu'on travaille, ça fait plus à la fin du mois, sans les réductions. Mais à la retraite, ça pèse pas lourd.
Lourdes, qui était employée de bureau, reconnaît s'être accommodée de la situation comme de nombreux autres Portugais.
J'ai laissé faire. C'est notre faute, nous avons accepté le système. Aujourd'hui, je travaille toujours, je fais des petits boulots, ce qui me fait un complément de retraite. Je suis propriétaire et je perçois la pension de réversion de mon mari décédé, de 400 euros aussi. Je travaille car je ne veux pas dépendre de ma fille qui pourrait m'aider. Mais tant que je pourrai, je m'en sortirai seule. Et après, on verra.
Il y a 5 ans, le salaire minimum était de 450 euros mensuels. Aujourd'hui, il a été fortement réévalué à 850 euros. Autant dire que pour les plus âgés, se dispenser des retenues sociales était la seule manière de boucler les fins de mois. Alexandrine, fringante retraitée de 77 ans.
Aujourd'hui, je penserais davantage à moi, mais j'avais des enfants en bas âge et des parents, une vie à vivre. L'argent était suffisant pour m'en sortir et acheter ce qu'il fallait pour moi ou mes filles. J'ai cotisé le minimum légal.
Les 600 euros mensuels que perçoit Alexandrine, complétés par des rendements de placement, ne lui permettent pas de payer une maison de retraite à sa mère âgée de 100 ans et toujours à sa charge. Aujourd'hui, le montant de la retraite reste encore à la peine. Avec 563 euros de pension moyenne sur 14 mois, le Portugal se place dans le peloton de queue en Europe. Les conditions sont souvent difficiles pour les retraités. Le système du coefficient de durabilité, qui n'est pas socialement remis en cause, ne pourra pas prolonger éternellement l'âge de départ à la retraite. Il faudra calculer autrement, selon l'historienne et analyste Raquel Varela.
C'est une erreur. L'idée de départ repose sur l'augmentation de l'espérance de vie réelle et la durée de cotisation. Mais ce qui se passe, c'est que la sécurité sociale est en permanence excédentaire. Car malgré le vieillissement de la population, il y a un rajeunissement de la force de travail grâce à l'immigration. Et même sans ça, il faut prendre en compte le fort développement des technologies, l'automatisation et les bénéfices des entreprises. C'est ce qui devrait conforter la pérennité de la sécurité sociale.
Et puis la loi génère des biais, selon l'historienne. De nombreux employeurs préfèrent mettre leurs employés à la retraite bien avant l'âge légal.
On a mis en place le système du départ à la retraite anticipée, avec de lourdes pénalisations sur la pension. Les entreprises utilisent les travailleurs jusqu'à la limite, à grand renfort d'heures supplémentaires et de travail nocturne. Elles savent qu'ils seront usés avant l'âge, alors ils seront pris en charge par la sécurité sociale à 55 ou 60 ans, avec des retraites misérables.
Les jeunes et les moins jeunes retraités sans revenus décents se voient donc contraints de trouver une activité à temps partiel et des revenus supplémentaires. Avec 13% des pensionnés au travail après l'âge légal, nous ne sommes pas très loin de la moyenne européenne. Cependant, 40% de ceux qui travaillent encore le font par nécessité. C'est beaucoup, alors qu'en moyenne en Europe, 30% des retraités travaillent par choix et plaisir. Irène, 70 ans, occupe toujours des fonctions comme professeur.
Le dinheiro fait toujours falta. L'argent manque toujours. Moi, j'ai 6 petits-enfants et 2 arrière-petites-filles. Alors la grand-mère et arrière-grand-mère que je suis fait des cadeaux. Oui, c'est une question économique.
Certains secteurs, comme l'éducation, la santé, sont délaissés par les jeunes car ils sont peu attractifs. L'État encourage donc les seniors à continuer à travailler dans ces secteurs. De l'avis des analystes, tôt ou tard, et malgré le coefficient de durabilité, on arrivera à une rupture du système. Le gouvernement a d'ores et déjà prévu de créer des commissions pour analyser la situation.
Elles entendent porter leur dossier retraite devant la haute cour du Royaume-Uni, les WASPI. Ces femmes, nées dans les années 50 et 60, estiment qu'elles ont été mal, voire même pas du tout, informées par le gouvernement des changements intervenus dans l'âge de départ à la retraite et qu'elles ont de ce fait subi des préjudices financiers importants dont elles entendent demander réparation. 3 800 000 femmes pourraient être concernées à travers le pays et on va en parler avec Marie Billon à Londres. Bonjour.
Bonjour Juliette.
Marie, tout d'abord, expliquez-nous que signifie ce mot WASPI.
C'est un acronyme, Women Against State Pension Inequality, les femmes contre l'inégalité des pensions d'État. Elles ont commencé leur vie professionnelle en pensant qu'elles pourraient toucher leur retraite à 60 ans, mais le gouvernement britannique a repoussé plusieurs fois cet âge de départ pendant leur carrière, sans qu'elles en soient correctement informées, ce qui a eu des conséquences financières graves pour beaucoup d'entre elles. La députée travailliste Belle Ribeiro Adi a résumé leurs difficultés au Parlement en janvier dernier.
Ces femmes ont planifié leur vie en se basant sur l'assurance qu'elles toucheraient leur pension d'État à 60 ans. Au lieu de cela, elles ont été confrontées à des difficultés financières, à l'incertitude et dans de nombreux cas à une grande détresse. Un gouvernement a commis une grave erreur. Des milliers de personnes en ont souffert et doivent donc être indemnisées. Il va sans dire que cette erreur n'a pas été commise par le gouvernement actuel. Ce n'est pas lui qui est à blâmer. Mais malheureusement, c'est à lui qu'incombe la responsabilité de la réparation.
Concrètement, la plupart de ces femmes ont dû continuer à travailler plus longtemps pour pouvoir toucher leur retraite d'État.
Et que répond le gouvernement, Marie ?
Alors, au début des années 2020, le gouvernement britannique a reconnu des fautes administratives et s'est même excusé pour le retard de 28 mois dans l'envoi de courriers d'information. En 2021, suite à un rapport parlementaire, le médiateur est allé jusqu'à recommander des indemnisations, ce que les WASPI réclament. Les compensations recommandées sont entre 1 000 et 2 950 livres sterling, ce qui équivaudrait à 10,5 milliards de livres sterling. Le gouvernement conservateur précédent n'a pas accepté la demande de compensation. Keir Starmer, le Premier ministre travailliste, a pour sa part répondu à la Chambre des communes en décembre dernier.
Le fait est que dans les circonstances économiques actuelles, le contribuable ne peut pas supporter le fardeau de dizaines de milliards de livres de compensation.
Le gouvernement estime qu'en 2006, 90% des femmes nées dans les années 50 savaient que l'âge de la retraite allait changer. Des lettres envoyées plus tôt n'auraient pas fait de différence à cela, dit-il.
Et comment ce refus de compensation est-il perçu ?
Mal, déjà, par les femmes concernées. Angela Madden est la directrice de la campagne des WASPI, elle parlait à la BBC.
Le ministère du Travail et des Pensions reconnaît s'être trompé, mais il n'admet pas que cette erreur ait causé une quelconque injustice aux femmes concernées, alors que nous savons que c'est le cas, nous l'avons vécu.
Mal reçu aussi au sein du Parti travailliste, qui est au pouvoir depuis juillet dernier. On a entendu la députée Belle Ribeiro Adi appeler le gouvernement actuel à assumer ses responsabilités. De fait, les WASPI attendaient beaucoup de la nouvelle administration, comme explique Angela Madden.
Nous avons eu des discussions intéressantes avec les travaillistes avant qu'ils arrivent au pouvoir. Et ils disaient qu'ils étaient de notre côté, qu'ils réalisaient l'énormité de ce qui était arrivé, qu'ils étaient prêts à faire quelque chose. C'est donc très décevant de découvrir leur position et leur discours aujourd'hui.
Les avocats des WASPI sont actuellement en train de mettre le gouvernement en demeure d'un recours devant la Haute Cour de justice contre son refus de compensation.
Marie Billon, correspondante à Londres, à bientôt. Les Grecs célèbrent aujourd'hui leur fête nationale, l'occasion de rendre hommage au rebetiko, cette musique populaire aujourd'hui classée patrimoine immatériel par l'UNESCO, avec la complicité derrière les manettes du réalisateur Théo Raison. Cette fête du 25 mars qui commémore l'indépendance de l'Empire ottoman en 1821, elle est également célébrée par les nombreux Grecs de l'étranger. Avec plus de 400 000 représentants, les Gréco-Australiens forment l'une des communautés les plus importantes de la diaspora grecque dans le monde. La majorité des Grecs exilés en Australie sont partis pour des raisons économiques au fil du XXe siècle. Mais ces dernières années, le pays a connu une nouvelle vague migratoire venue de Grèce à cause de la récente décennie de crise financière. C'est un reportage à Melbourne de Joël Bronner.
Alors que l'hiver prend fin en Grèce, c'est l'été qui se termine en Australie. Ici, aux antipodes de l'Europe, la ville de Melbourne abrite l'une des communautés grecques les plus importantes au monde. Hors de Grèce et de Chypre, la capitale de l'État de Victoria est en effet la ville qui accueille le plus grand nombre d'hellénophones. À Melbourne, Nikos et sa famille habitent près du quartier d'Oakley, le plus grec de la ville, où de nombreuses devantures proposent des souvlaki, ce plat de brochette typique des rues grecques.
Λέγομαι Nikos Fotakis.
Je m'appelle Nikos Fotakis, je vis à Melbourne depuis 2014. J'appartiens à la vague des migrants de la crise économique qui a frappé la Grèce et que l'on a aussi appelée la fuite des cerveaux.
À l'époque, ce père de deux enfants travaille à la fois comme entrepreneur et comme journaliste. Ces deux carrières parallèles périclitent du fait de l'irruption en Grèce d'une crise économique violente et durable au début des années 2010. Alors que les salaires fondent et que le chômage explose, comme sa femme et lui, plusieurs milliers de Grecs font le choix de prendre la direction de l'Australie.
La présence d'une grande communauté grecque à Melbourne a été un facteur important, car nous savions qu'ainsi nous pourrions rester en contact avec la culture grecque, même si je dois dire que l'identité grecque en Australie est très différente de celle de la Grèce. Bref, mon premier emploi en Australie, je l'ai trouvé dans un journal grec. J'ai aussi exercé le métier de traducteur, et à l'heure actuelle, je travaille pour la Chambre de commerce gréco-australienne. Concrètement, toutes les opportunités professionnelles que j'ai eues ici en Australie ont été liées d'une manière ou d'une autre à la communauté grecque. Ces 10 dernières années, je suis donc resté en contact étroit avec la diaspora.
Pour Sofia Fatourou, prendre la direction de l'Australie au moment de la crise était d'autant plus naturel qu'elle disposait déjà de la double nationalité gréco-australienne, étant née en Australie de parents grecs, rentrée ensuite au pays. Cette mère de famille a travaillé 25 ans à Athènes avant de repartir à l'autre bout du monde à l'arrivée de la crise économique.
Quand je suis arrivée en Australie, j'ai réalisé que mes enfants étaient la cinquième génération de la famille à venir ici, la cinquième génération de gréco-australiens. Nous connaissions certaines histoires familiales, comme celle de mon arrière-grand-père, Dimitris, qui fut le premier à arriver en Australie vers 1890, mais nous n'avions pas pleinement conscience de cette continuité. Lui venait de l'île de Leucade, où il avait laissé sa famille. Un de ses enfants, mon grand-père Spiro, est venu en Australie pour 6 mois, mais il n'a pas aimé la vie ici et il est rentré en Grèce. En 1965, un nouvel épisode a commencé. Mon père, qui représentait la troisième vague de migration familiale, est venu en Australie après son mariage avec ma mère. Il a eu 2 enfants, dont moi, avant de retourner vivre en Grèce dans les années 1980.
Un retour vers un pays d'origine idéalisé qui ne tiendra pas toutes ses promesses. 30 ans plus tard, lorsque la crise éclate en Grèce et que Sofia Fatourou annonce à ses parents son départ pour sa terre d'origine, l'Australie, ceux-ci confessent pour la première fois regretter d'être rentrés au pays. Une fois à Melbourne, pour s'intégrer au monde du travail, Sofia doit reprendre les études. Mais son intégration passe aussi par la fréquentation d'autres générations de la diaspora, d'autres mentalités.
Nous sommes souvent en contact avec des Grecs de deuxième ou troisième génération. C'est très particulier parce qu'ils sont souvent plus conservateurs que nos contemporains en Grèce. En tant qu'Australiens, ils sont modernes, mais leur identité grecque, elle, semble figée dans les années 50-60. C'est une combinaison étrange et parfois compliquée. Heureusement, beaucoup de Grecs sont aussi immigrés ici récemment comme nous, et c'est bien plus facile de créer des liens avec eux, car car nous avons des références en commun. Nous avons vécu les transformations de l'Europe et de la Grèce. Nous avons vu une économie entière s'effondrer et entre nous, nous nous comprenons immédiatement.
Paradoxe de l'exil, la famille confie aller dorénavant régulièrement écouter de la musique grecque traditionnelle, du bouzouki, chose qu'ils ne faisaient jamais en Grèce. À Melbourne, ils se sont aussi mis à boire du café frappé, autre incontournable grec, dont ils ne consommaient pas une goutte en Europe. En ce jour de fête nationale en Grèce, les Grecs d'Australie viennent rappeler que l'histoire des Grecs, comme le conclut la mère de famille, est une histoire de migration et de déplacement, parfois bien loin de la vieille Europe.
Un nouveau musée vient d'ouvrir ses portes à Prague. Il est consacré à Alphonse Mucha, artiste tchèque précurseur de l'art nouveau dont les affiches parisiennes aux lignes sinueuses et aux figures florales sont connues dans le monde entier. Visite guidée avec l'arrière-petit-fils de l'artiste, Markus Mucha, au micro de notre correspondant à Prague, Alexis Rosenzweig.
C'est dans l'un des palais de l'artère principale du centre de Prague qu'a ouvert ce nouveau musée Mucha, ou Mucha si l'on prononce à la tchèque, et après une première partie consacrée à une série d'autoportraits avec sa famille et ses amis pris par l'artiste bien avant l'époque des selfies, dont un notamment avec son ami Paul Gauguin, on arrive à la section des affiches qui ont rendu Alphonse célèbre à la fin du 19e siècle. Markus Mucha.
Mon arrière-grand-père, il n'était pas connu. Et il avait une commission du plus célèbre actrice du monde, Sarah Bernhardt. Et il a créé cette affiche et c'était une sensation. C'était une sensation parce que c'était le commencement de l'art nouveau. C'était le commencement peut-être du premier style mondial de l'art.
Au-delà des affiches et des célèbres publicités pour le papier à cigarettes ou encore pour les chemins de fer, le nouveau musée pragois raconte aussi la vie privée d'Alphonse Mucha, artiste émigré en France puis aux États-Unis. Il revient à Prague peu avant la fondation de la nouvelle Tchécoslovaquie. Il dessine quelques symboles de ce nouvel État, dont des timbres et des billets de banque.
Cette section ici, c'est au sujet de la franc-maçonnerie.
Un chapitre important de la vie de votre arrière-grand-père.
Oui, il y a quelque chose sur lequel beaucoup de monde ne sait pas beaucoup. Et avec notre conservatrice et nos archivistes, on fait beaucoup de recherches. Et pour Alphonse, la franc-maçonnerie, c'était une philosophie qui prenait toutes les meilleures caractéristiques de religion et des pays autour du monde et les mettre ensemble.
C'est aussi parce qu'Alphonse Mucha était grand maître des francs-maçons à Prague qu'il a fait partie des premières personnes arrêtées et interrogées par les nazis après l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1939. Il est mort d'une pneumonie en juillet de la même année après avoir été relâché. Un autre motif de son arrestation était son engagement pour les peuples slaves, engagement symbolisé par son œuvre magistrale, l'épopée slave, des toiles retraçant l'histoire des Slaves en d'immenses tableaux qui doivent venir compléter ce nouveau musée dès que le bâtiment voisin sera terminé.
Nous allons faire un nouvel espace, 100 mètres d'ici, que l'architecte anglais Thomas Edwick va faire pour l'épopée slave. Monsieur Edwick, il est inspiré de Mucha quand il était jeune et ça sera son... Il est très célèbre pour les bâtiments qu'il fait à New York et en Beijing et en Angleterre, mais ce sera son premier bâtiment en l'Union européenne.
Objet de longues procédures judiciaires entre la ville de Prague et les héritiers de Mucha pour déterminer où elle pouvait être exposée, la vingtaine de tableaux de l'épopée slave devrait être rapatriée à Prague en 2028 depuis le château de la campagne morave où ces tableaux sont encore exposés aujourd'hui. Cet artiste aux multiples talents continue d'inspirer les créateurs contemporains, des mangas aux séries animées en passant par Disney et la Reine des Neiges.
À la réalisation Théo Raison, Accent d'Europe est aussi en podcast sur RFI Pure Radio. À demain.